comme les prévoyants maîtres de chantier, protégez vos ouvrages avec Suno Assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler des exosquelettes, ces innovations technologiques et leurs applications à un secteur particulier de la médecine, celui de la rééducation. Ces équipements robotisés qui viennent accompagner des personnes en situation de handicap suite à des accidents de la circulation, des accidents vasculaires cérébraux ou d'autres problèmes de santé, des accessoires motorisés de très haute technologie qui permettent donc de restituer temporairement certaines capacités perdues, comme par exemple la station debout pour les paraplégiques. Ces appareillages peuvent impliquer une opération chirurgicale en cas de connexion cérébrale. D'autres systèmes sont fixés, installés par des sangles, équilibre, autonomie, compensation, thérapeutique. Ces machines, d'allure souvent futuriste, permettent d'obtenir un certain nombre d'améliorations, mais actuellement ce secteur reste le plus souvent associé au terme de projet ou de prometteur, car cette technologie de pointe, adaptée à la santé, pose évidemment de nombreuses questions. En premier lieu, en termes de coûts financiers. De coûts financiers et donc d'inégalité d'accès, également en termes éthiques, pour poser certaines limites de cette compensation, de cette amélioration. Alors aujourd'hui, ces exosquelettes ne relèvent plus de la science-fiction et c'est ce que nous allons constater pendant cette émission en donnant la parole à des concepteurs et des soignants qui les ont déjà intégrés à leur pratique. D'extraordinaires machines au service de la santé humaine. Pour en parler avec nous, docteur Alexis Schnitzler, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin physique et réadaptation à l'hôpital Raymond Poincaré. François Chevet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes kinésithérapeute et auteur du livre « Prendre soin » aux éditions Don Quichotte. Et également avec nous en studio, on vous retrouve, Jean-Louis Constanza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur et directeur du développement de la société Wondercraft. Et vous allez nous décrire dans quelques instants quel est précisément ce secteur d'activité.
Priorité santé sur RFI.
Alors ces exosquelettes, beaucoup d'entre nous ne les ont jamais eus directement sous les yeux. Pour certains, on peut imaginer, peut-être grâce à des scènes de films de science-fiction, mais dans Priorité Santé, ce sont bien de dispositifs conçus à des fins médicales dont il est question. Première question, Jean-Louis Constanza, c'est un petit peu peut-être de la pudeur ou de l'humilité. J'ai fait une présentation, mais on ne peut pas devenir spécialiste des exosquelettes en préparant simplement une émission, même Priorité Santé. Est-ce que je n'ai pas dit trop de bêtises? Parce qu'on parle de robots, on parle de connexion, on parle de réadaptation. C'est très compliqué parce que c'est tellement nouveau qu'en fait, il y a peu de littérature. Ou alors, si on s'y penche, on devient chercheur.
Oui et non. C'est pas si compliqué. Un exosquelette, c'est un robot, effectivement, qui se fixe autour de vos jambes et qui vous rend ce qui vous manque pour les personnes en situation de handicap moteur, c'est-à-dire la marche. Donc, vous fixez un robot autour de vos jambes. C'est une machine qui ressemble un petit peu aux membres inférieurs d'un humain et qui va pouvoir vous assister pour vous lever, marcher, à très court terme, conduire une rééducation dans un établissement de santé et à relativement court terme, vous permettre d'assurer votre mobilité pendant votre vie quotidienne.
Si on reste sur la seule description, il est fabriqué de métal, il est fabriqué de plastique. À quoi il ressemble? C'est une sorte de carapace robotisée, comme un grand robot qui nous prendrait un petit peu, pas dans ses bras, mais dans sa structure métallique?
Oui, c'est une paire de jambes qui est à l'extérieur de vos jambes et puis que vous fixez sur vos jambes avec des sangles et des velcros. Finalement, quand vous en verrez dans la rue, vous vous demanderez pourquoi il n'y en avait pas avant, parce que c'est un objet assez simple, assez anthropomorphe, qui ressemble un petit peu à l'humain, sauf qu'il déborde un petit peu sur les côtés et puis derrière votre bassin.
Docteur Alexis Schnitzler, il y a donc ces conceptions, bien sûr il y a la machine, il y a aussi le duo patient-soignant. Quelles sont les disciplines médicales qui sont associées à ce type de technologie?
Alors ce type de technologie, on l'imagine et on peut l'imaginer sur deux secteurs d'activité qui sont pour nous très importants. Il y a la rééducation, cette période où on va essayer de redonner des possibilités motrices aux gens qui ont des atteintes du cerveau ou de la moelle épinière. Et puis il y a la période de compensation qui arrive quelques mois ou quelques années après la pathologie, où on essaye de donner de l'autonomie malgré les difficultés du quotidien. Aujourd'hui, cette technologie est essentiellement utilisée dans la période de rééducation parce qu'on a un cerveau qui est un grand fainéant et qui doit être un petit peu forcé pour réussir à s'investir dans des progrès moteurs. Si je vous mets un plâtre pendant un an et qu'au bout d'un an, je retire le plâtre qui est sur votre bras, vous aurez l'habitude d'utiliser votre bras qui n'était pas plâtré et votre cerveau aura quelque part oublié le bras qui était dans le plâtre. Au niveau des jambes, c'est un tout petit peu moins vrai parce qu'on a besoin des deux jambes pour marcher, mais on a quand même une littérature qui est assez riche pour montrer qu'aujourd'hui, quand on a une lésion du cerveau de la moelle épinière, dans cette période de rééducation, obliger le cerveau, le contraindre à utiliser malgré les difficultés des articulations, des muscles qui fonctionnent pas parfaitement, est un vrai plus pour le progrès.
Alors, dans l'une des salles de rééducation où vous exercez, il y en a un de ces exosquelettes. Combien de praticiens doivent être là pour le faire fonctionner? C'est un patient à la fois? Combien de soignants?
C'est extrêmement chronophage. Un patient, deux soignants, un quart d'heure d'installation, un quart d'heure pour sortir de la machine. Parce que ce sont des patients qui sont lourdement handicapés. On est évidemment sur une population de patients qui nécessite beaucoup d'attention et une période thérapeutique qui dure entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Donc c'est très chronophage. Cela dit, pour certains types de rééducation spécifique, on ne peut pas s'en passer. Ça reste quelque chose qui est important pour nous.
Alors qui sont justement les patients qui utilisent, qui ont besoin de ces machines ?
Plutôt des patients qui ont soit des lésions au niveau du cerveau, et généralement ça donne des hémiplégies, comme les accidents vasculaires cérébraux, qui ont un déficit moteur tel qu'ils ont même du mal à tenir juste debout. Et donc on a montré que même quelqu'un qui ne tenait pas bien debout, si on forçait le cerveau à utiliser des éventuelles possibilités de marche, on se donnait plus de chances à terme de pouvoir avoir une marche possible. Et puis des patients qui ont des lésions de la moelle épinière, un petit peu plus bas dans le système nerveux, donc comme les gens qui ont une paraplégie ou une tétraplégie, mais là on est plutôt sur une population de patients qui ont une atteinte qui est incomplète, c'est-à-dire des muscles sont présents, mais pas suffisamment forts ou pas suffisamment nombreux pour permettre de déambuler, et donc cette technique peut être un atout.
Alors, docteur Alexis Schinzer, là on a parlé des patients, maintenant on va parler des praticiens. Est-ce que dans votre service, tout le monde se forme pour pouvoir justement utiliser, accompagner l'exosquelette, ou c'est vraiment quelque chose qui est pointu avec une formation qui se fait, j'imagine, directement avec vos équipes, Jean-Louis Costanza, pour préparer le travail commun auprès des patients?
En fait, comme vient de le dire le docteur Schnitzler, un des enjeux, c'est de faire des machines qui soient vraiment très simples, à la fois pour le patient et les équipes soignantes. Parce que quand on a une heure pour un patient, on peut pas passer 30 minutes à régler un appareil compliqué. Donc la technologie, en général, permet de faire des choses de plus en plus simples, avec des fonctions qui deviennent de plus en plus riches. Chez Wondercraft, on a beaucoup travaillé pour que un patient puisse se former en quelques minutes à marcher avec l'exo, que les kinés et les médecins puissent se former en quelques demi-journées et que la rentrée d'un patient dans l'exo se fasse très simplement, si possible en autonomie, parce que le patient doit être, pour que le traitement marche, je parle sous votre contrôle, mais il faut que le patient soit engagé, motivé et qu'il se sente aux commandes de son traitement et pas en mode passif, si vous voulez.
François Chevet, kinésithérapeute d'expérience, rééducation, réadaptation, quel est votre regard justement sur ces machines, sur ces exosquelettes qui entrent directement dans les structures de santé?
D'abord, on pense très naturellement que c'est incontournable, parce qu'on a commencé il y a de nombreuses années, effectivement, par mettre des grands appareils de marche, des plâtres, des corsets, des orthèses de jambes. Et on s'est aperçu qu'il y avait une réelle volonté pour toutes ces personnes, notamment paraplégiques, de réaccéder à la position debout, voire à la déambulation et à la marche. Tout ce qui nous paraissait presque archéologique maintenant trouve certainement sa place dans ce type de futur, qui est déjà, on le voit venir, notre présent pour les structures qui peuvent se permettre de les accueillir. Alors moi, en tant que kiné, je pourrais simplement dire, il faut que les kinés continuent d'être formés, il faut qu'ils soient aussi informés, il faut peut-être que ça passe aussi déjà par les écoles, par les formations, par les cours, et qu'on puisse assimiler très vite ces nouvelles technologies qui seront au service du patient. Alors certes, pas pour tous les types d'incapacité du patient, on est bien d'accord. N'oublions jamais quand même que pour les personnes paraplégiques notamment, les items de qualité de vie vont aussi reprendre des choses incontournables, comme les troubles génitaux sphinctériens. et que ceci ne peut pas encore pour l'instant être soigné par des endosquelettes ou des exosquelettes. Malgré tout, pour ces items de marche, de déambulation et d'image de soi, je pense qu'on est vers une avancée incontournable.
Avec notamment en termes de posture, bien sûr, c'est évident, on était assis, on peut se mettre debout, ça change complètement aussi notre vision et notre rapport aux autres.
Tout à fait, même si en me faisant l'avocat du diable, je pourrais vous dire, comme me disait un médecin, il suffit de s'asseoir à côté de quelqu'un qui est en fauteuil roulant pour lui parler à même niveau de regard. Mais ça, c'est ce que dit le médecin. Ce que dit le patient également,
c'est... Peut-être que lui, il a envie de se
j'ai
mettre...
J'ai envie d'être debout. Alors, on avait des structures, des fauteuils verticalisateurs, même des fauteuils verticalisateurs qui se déplacent. Mais ceci, ça ne remplace pas la marche. La sensation, comme pourrait nous dire M. Costanza, cette sensation de marche retrouvée, même si, attention, la sensibilité en cas d'atteinte complète ne peut pas être donnée par ce type d'outils. Mais on se rend compte quand même qu'il y a une marche, une déambulation et un plaisir qui sont incontournables.
Est-ce que vous vous êtes dit dans votre pratique, vous parliez tout à l'heure de ces stations debout, j'imagine aussi avec éventuellement des systèmes de sangles, avant que la technologie n'existe, vous étiez déjà praticien, si j'avais ce genre de machine, ça pourrait vraiment changer les choses?
Oui, oui.
On se projette aussi comme ça sur des techniques ou des technologies qu'on n'a pas?
Oui, on se projette parce qu'on est ouvert au monde et qu'on voit la science-fiction arriver et que la science finalement arrive très vite. Et que cette fiction qu'on avait de l'avenir et de l'amélioration du patient se retrouve tout de suite améliorée par une science qui gagne très vite du terrain et qui est au service du patient.
Précisément sur ce côté fiction, science-fiction quasi futuriste, Jean-Louis Costanza, est-ce qu'il ne faut pas calmer un petit peu par contre certains esprits qui se projettent dans des choses qui sont aujourd'hui hors de portée et qui pourraient justement être préjudiciables d'un point de vue notamment moral et psychologique pour les patients et pour leur entourage, leur faire croire finalement des choses, je sais bien que vous gardez de le faire, mais en tout cas c'est quelque chose qui existe, notamment je vais le dire, du côté des médias qui veulent toujours aller un peu vite dans le progrès et à la limite faire des films de projection de ce qui n'est pas encore acquis au niveau de la technologie.
Oui, quand on est en fauteuil roulant, on doit construire un projet de vie qui n'est pas un projet de vie dégradé par rapport à quelqu'un qui marche, qui est différent, qui est parfois compliqué, mais où on est heureux tout autant que quelqu'un d'autre. Chez Wondercraft, on a travaillé 6 ans sans montrer ce qu'on faisait, sans jamais laisser sortir une vidéo, justement pour ne pas risquer d'endommager le projet de vie de centaines de milliers de personnes ou de millions de personnes qui sont en fauteuil. Maintenant, on a une première version de l'exo qui est destinée aux centres de rééducation, aux hôpitaux, qui commence à tourner. Donc les gens se filment, forcément, dans les hôpitaux. On ne peut pas interdire aux mamans de filmer leur fils ou aux cousins de filmer leur cousin. Et pour la première fois, on a laissé quelques médias venir filmer. Mais on est très précautionneux sur les informations qu'on donne pour la deuxième version, qui sera une version grand public pour aller en ville. Et vous ne nous entendrez jamais donner une date où, avant qu'on soit sûr de pouvoir livrer des exos à un prix acceptable pour les gens. Quand vous êtes en fauteuil, vous êtes très très à l'écoute, même si vous avez fait le point sur vous-même et que vous avez fait un deuil, vous êtes toujours très à l'écoute de ce qui pourrait venir vous remettre en marche. Et donc, les industriels, les médecins font, je crois, très très attention à ne pas faire de fausses promesses.
Alors, du côté des protocoles, lorsque les patients, justement, dans des institutions de santé comme la vôtre, docteur Alexis Schnitzler, accèdent à ces technologies, comment ça se passe? D'abord, est-ce que c'est sur la base du volontariat?
Non. Enfin, volontariat, on n'a jamais forcé un patient à être éduqué.
C'est comment vient la proposition, en quelque sorte?
C'est un outil de rééducation. Voilà. Des outils de rééducation motrice, j'en ai des dizaines et des dizaines à ma disposition. Il faut trouver le compromis entre l'acceptabilité de l'outil, entre le bénéfice d'utiliser un outil par rapport à un autre, le bénéfice attendu pour le patient. Il faut se méfier énormément de l'effet décorum de ce type de technologie, c'est-à-dire que il pourrait y avoir des centres un peu mal attentionnés qui vivraient sur cet affichage extrêmement, on va dire, rutilante de faire de la rééducation.
On peut dire même publicitaire, avec c'est une espèce de surexposition technologique.
C'est cela. Alors qu'objectivement, il y aurait peu ou pas d'avantage à faire marcher les gens entre les barres parallèles et points. Il faut avoir en tête aussi que ce genre d'avancée dans notre domaine de la rééducation, on utilise des stratégies de prise en charge qui sont toujours assez globales. Quelqu'un qui a du mal à marcher, qui est cérébro-lésé, c'est parce qu'il a les muscles qui fonctionnent pas bien, mais il y a aussi la sensibilité, tout ce qui est sensoriel, l'équilibre, et puis il y a tout ce qui est cognitif. Si jamais on n'est pas capable d'être attentif, on ne marche pas. Donc c'est une prise en charge qui est extrêmement globale. Et donc on a plein de leviers pour essayer d'amener les gens vers une marche qui se fasse en sécurité. Donc ce type d'outil est d'un des leviers qui nous permettent de remettre les gens debout et de les faire marcher. Et donc c'est vraiment du cas par cas. Et nos techniques, on va dire standards de rééducation, ont tendance à progresser avec l'arrivée de nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, quelqu'un qui avait une hémiplégie n'était pas capable de tenir assis, on ne le mettait pas debout et on le faisait encore moins marcher. L'arrivée de ces technologies-là, donc il y a 20 ans, qui ont montré que même quelqu'un qui tient pas assis, si on le met dans un gros robot et qu'on le fait marcher, son pronostic est amélioré. On s'est mis à mettre des gens debout dans des systèmes qui ressemblent à des Yupala, comme pour les enfants, avec des rails au plafond, et à les faire marcher dans les barres parallèles. Et on a bien vu qu'effectivement, on avait un grand bénéfice de travailler la marche, malgré des difficultés, ne serait-ce que de tenir assise. Donc c'est un outil parmi tant d'autres.
Alors là, on parle bien sûr du secteur de la santé, mais ces exosquelettes, on peut les retrouver dans d'autres secteurs, l'industrie, pour alléger par exemple le travail de force de certains ouvriers, dans le secteur militaire. Votre technologie, Jean-Louis Constanza, c'est propre au secteur médical ou vous avez été approché par d'autres domaines ?
Alors, Wondercraft, aujourd'hui et demain, se spécialise vraiment dans un seul métier, qui est de faire marcher les gens qui marchent pas ou qui marchent mal. C'est plus complexe que les autres domaines parce que on embarque des gens qui n'ont plus d'équilibre ou plus de motricité. Donc, le robot, l'exosquelette, doit recréer la chose qui est la plus complexe en robotique, qui est de recréer... La marche humaine est un phénomène complexe. Vraiment, dans le système nerveux, c'est quelque chose de complexe. Et la recréer, c'est un des gros défis de la robotique. Quand vous aidez un soldat ou un ouvrier dans une usine, il a son équilibre, il a une capacité motrice et vous cherchez à l'augmenter. Créer une marche équilibrée qui soit réaliste, qui soit belle à voir et qui serve à quelque chose, c'est beaucoup plus complexe et c'est ça qu'on a choisi d'aborder. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est les seuls au monde chez Wondercraft à le maîtriser. Donc on fera que ça. En plus, on considère que le besoin est considérable. Hein. L'épidémiologie est très mal faite, mais il y a entre 10 et 30 millions de personnes qui sont en fauteuil et qui pourraient remarcher en centre de soins puis en ville avec des exosquelettes, c'est largement suffisant. Et puis enfin, pour une équipe de roboticiens qui sont vraiment à la pointe des maths, à la pointe de la robotique, et qu'on a assemblé, c'est un challenge qui est au moins aussi intéressant que d'aider à fabriquer des voitures ou à faire des tâches moins visiblement utiles.
Alors depuis le début de cette émission, on parle donc de ces exosquelettes. Je voudrais juste qu'on fasse la distinction, hein, pour que les auditeurs comprennent bien, entre ces exosquelettes, où il y a bien sûr une part de robotique, on l'a compris, et les prothèses robotisées, pour que les gens comprennent bien la différence. Est-ce que vous pouvez justement faire juste un petit descriptif? Parce que, je vous le dis, beaucoup de nos auditeurs, moi-même, je n'ai jamais vu ces machines. Donc pour bien comprendre les choses, Jean-Louis Constanza.
Une prothèse est un appareil qui va remplacer une partie du corps qui manque. Typiquement, par exemple, un tibia et un pied. Quelqu'un a été amputé ou un bras, un avant-bras. On va fixer quelque chose qui ressemble à un bras et à une main un avant-bras et une main sur le bras de la personne, en essayant de récupérer un signal nerveux ou musculaire pour commander des fonctions comme plier le coude ou serrer la main autour d'un objet qu'on veut prendre. Donc on remplace quelque chose. Un exosquelette lui remplace une fonction, c'est-à-dire quelqu'un a toujours ses membres, mais il peut plus s'en servir, ou il ou elle peut mal s'en servir parce qu'il a une déficience neurologique, parce que il ou elle a eu un accident de la moelle épinière ou une pathologie génétique. Et donc on va fixer autour de la personne un robot, donc une deuxième paire de jambes en fait. Et la robotique est d'un degré plus complexe parce qu'encore une fois, il faut pas seulement faire des mouvements, mais il faut pas tomber. Et ne pas tomber, c'est extrêmement complexe à gérer. Il faut recréer un équilibre. Donc c'est un peu dans la même catégorie d'objets, mais c'est un petit peu comme une voiture à un vélo, quoi.
Alors justement, on va voir cette distinction, on va aborder les enjeux, les interrogations associées à ces technologies de pointe. Tout à l'heure, très brièvement, on a parlé du coût financier, c'est donc une question d'accès aussi. On va y revenir, mais tout de suite ce témoignage.
Priorité santé sur RFI.
Rencontre avec Priscille Déborah, elle sera bientôt la première française à recevoir une prothèse bionique de bras. Amputée depuis 12 ans des deux jambes et d'un bras, Priscille vivait jusque-là avec une prothèse myoélectrique et avant l'implantation de sa prothèse, ce qui est programmé pour le mois de mai, elle a subi une première opération chirurgicale il y a 5 mois. L'opération pour réactiver certains nerfs de son bras. Elle travaille en ce moment avec son ergothérapeute Claire Bonamy, si jamais, au sein du centre de réadaptation de la Tourmaline, c'est à côté de Nantes. Et Charlie Dupiot l'a rencontrée en pleine séance d'envoi de signaux à son moignon de bras.
Alors, tu vas essayer de te relâcher un petit peu. Donc là, j'ai mis l'électrode sur ce qui va permettre de faire la fermeture de la main, donc sur le courbiceps qui a été réinnervé, et donc sur le triceps. Donc là, tu vas penser, donc fermeture de main, ouverture. T'arrives ou pas à visualiser ton membre fantôme ? Ouais. Donc le membre fantôme, hop, tu ouvres la main et tu relâches.
Ouais, l'ouverture, ça reste quand même compliqué. Hein.
Non, c'est bien. Franchement, c'est déjà un très bon...
Donc, je suis triple amputée, c'est-à-dire que je suis amputée des deux jambes et du bras droit. Je suis appareillée des deux jambes, donc je marche en fait avec des prothèses de jambes. Donc voilà, ça me permet déjà une certaine autonomie. Et pour le bras, j'avais une prothèse myoélectrique, mais finalement que j'utilisais vraiment de façon ponctuelle en fait pour vraiment certaines choses. Cette année, je me suis lancée dans une nouvelle aventure. Donc je vais être la première femme française à bénéficier d'une prothèse de bras bionique, c'est-à-dire une prothèse de bras commandée par le cerveau. Sachant qu'il y a à peu près 140 personnes, je crois, qui ont été opérées dans le monde, essentiellement aux États-Unis, en Autriche et en Allemagne. Ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est que ça utilisera les fonctions motrices naturelles des nerfs. C'est-à-dire que le nerf, par exemple, qui servait avant à ouvrir la main, ils m'ont réinnervé dans un morceau de muscle. Et c'est ce nerf-là, en fait, qui me servira à ouvrir la main de la prothèse. Donc moi, tout mon travail de rééducation que je suis en train de faire et qui va durer au moins un an, c'est en fait de réhabituer le cerveau à réutiliser le schéma moteur initial. Et l'idée étant après que ça devienne complètement naturel.
C'est comme le prolongement de votre bras en fait, cette prothèse.
Ah oui, c'est vraiment ça. C'est ça qui est assez incroyable. Ça fait 13 ans en fait que j'ai ce handicap-là. Ça fait 13 ans que je fais tout avec ma seule main gauche. Assez vite, je me suis rendu compte que il fallait que je pense au fait de vieillir avec un handicap, quoi. C'est-à-dire que avoir un handicap, c'est quelque chose à gérer déjà, mais en plus d'essayer de vieillir en maintenant intact ce qui reste du corps, c'est encore un autre challenge. Mais il y a aussi, j'utilise beaucoup les dents, par exemple, je sais pas moi, un sachet de gruyère, en fait, je vais vite fait l'ouvrir avec les dents. Donc ça, c'est aussi un truc. Je me suis rendu compte que j'étais en train un peu de m'abîmer les dents de devant. Effectivement, en fait, je me rends pas compte de tout ce que je vais pouvoir faire en récupérant ce deuxième bras, dans ma façon de, je sais pas, de me maquiller, de me brosser les dents, de plein d'actes de la vie quotidienne où j'avais finalement, je m'étais habituée à quasiment tout faire à une main. Et puis même oui, voilà, aussi pour couper ma viande, tout ça. C'est-à-dire que pour l'instant, je trouve un peu des techniques un peu à l'arrache. Parfois, c'est un peu... faut pas que j'aille dans un restaurant chic pour manger un faux filet. Mais là, je vais pouvoir vraiment imaginer aussi pouvoir recouper ma viande, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai pas fait depuis 13 ans.
Et alors, comment vous vivez le fait d'être la première Française à bénéficier de ça, de cette prothèse de bras bionique ?
En fait, ça va être une avancée énorme pour moi, mais aussi de savoir que ça va permettre d'ouvrir en fait des voies pour d'autres personnes. Et tout d'un coup, j'ai l'impression d'être vraiment réintégrée dans la société avec ce côté bionique qui est quand même très à la mode et qui du coup fait partie aussi de toutes les avancées technologiques comme l'intelligence artificielle, le transhumanisme et tout ça. Moi qui avais l'impression avec le handicap d'être en marge de la société, là finalement tout d'un coup j'ai l'impression d'avoir fait un bond en avant et d'être plutôt propulsée dans les premiers, donc c'est rigolo quoi. Après, le seul bémol à toute cette aventure, c'est que la prothèse coûte plus de 100 000 euros, mais il faut savoir que c'est une prothèse avec une main comme une pince. Et si après vous voulez avoir la main articulée, donc là vous avez vraiment tous les doigts dissociés avec les phalanges et tout ça, cette main-là, rien que cette main-là, coûte 60 000 euros.
Donc ça veut dire qu'en tout, ça revient à combien pour vous ?
À plus de 160 000 euros.
Avec une campagne de financement participatif hein, pour financer tout cela, cette machine qui donne l'impression à Priscille Déborah, qui lui donne le sentiment de revenir dans la communauté. C'est une sorte de paradoxe. François Chevet voulait réagir justement à ce témoignage.
Oui, parce qu'en fait, on se rend compte que prendre soin, ça a un coût. Et ça, c'est incontournable. Là, on entend évidemment le coût financier, on entend également le temps nécessaire pour acquérir cette technologie, pour la maîtriser. Ça veut dire que pour l'instant, ce sont des outils, on l'a vu, en rééducation. Or, on sait quelquefois qu'en rééducation, on est pris aussi par du temps, par des délais de séjour, par des centres qu'il faut faire tourner, nous ne cachons pas les mots.
Et par des listes d'attente aussi.
Et par des listes d'attente. Donc on est toujours dans cette confrontation qui n'a malheureusement pas changé, entre cette qualité de soins, pour laquelle tous les acteurs de soins œuvrent, et en même temps des contraintes économiques qui sont toujours très très serrées.
Avec d'immenses compétences. Hein. On comprend bien tout à l'heure l'exosquelette, on a décrit la machine, si j'ai bien compris, le patient est en quelque sorte sanglé, hein, sans tout le négatif qu'il y a derrière le côté sangle. Il est bien attaché avec précaution. Là, c'est différent puisque c'est relié de façon électronique. Jean-Louis Constanza, c'est complètement différent là au niveau de l'activation, de la décision d'activer le petit moteur du robot. C'est différent.
Oui, c'est vrai que les nouvelles prothèses, c'est un progrès extraordinaire parce qu'on est capable d'aller chercher, comme l'expliquait Priscilla, le vrai signal nerveux émis par le système nerveux pour aller refaire la même commande, par exemple prendre une brosse à dents. Pour un exosquelette, ça va être un peu différent. Il y a plusieurs façons simples d'activer un exosquelette. Nous, on a choisi chez Wondercraft simplement de reproduire des mouvements qu'on connaît déjà. Notre utilisateur va se pencher légèrement en avant pour déclencher la marche. Il y a une intelligence artificielle qui détecte le mouvement et puis qui va déclencher la marche de l'exo. Il peut presser sur un bouton pour l'arrêter. On va intégrer assez vite une commande à la voix pour compléter ça. Donc la complexité de la commande n'existe pas. Il faut reproduire des mouvements très simples qui permettent à l'utilisateur d'avoir une très faible charge mentale, c'est-à-dire de ne pas avoir à se concentrer sur autre chose que ce qu'il a envie de faire. Dans un centre de soins, il faut qu'il écoute son kiné, qu'il dialogue avec lui, et il ne faut pas qu'il ou elle se retrouve à avoir des commandes complexes. Et dans la rue, ça sera pareil. Il faut que la personne parle avec son fils qui tient par la main et regarde bien que le bus est en train d'arriver et qu'il ne faut pas aller sur la chaussée. En revanche, Wondercraft travaille avec des équipes de neurologues sur la connexion directe entre le cerveau et l'exosquelette, qui est faisable et qu'on a testé et qu'on va tester en clinique bientôt. Mais l'objectif n'est pas de commander l'exosquelette, l'objectif va être au contraire d'aider la personne à retrouver une meilleure marche. Parce que, comme l'expliquait le docteur Schneider tout à l'heure, quand on fait travailler le système nerveux, se met en jeu ce qu'on appelle la plasticité neuronale, qui fait que les neurones se reconnectent. Quand on les fait travailler ensemble, elles se reconnectent un petit peu toutes seules. Et donc, c'est ça que l'exosquelette va aider à faire. On commande la marche, l'exosquelette marche, et le corps, le système nerveux, comprend qu'il faut reconnecter la volonté de marcher et l'activation de la marche. Mais c'est dans l'autre sens, vous voyez, l'exosquelette va être un outil de rééducation. Et commander un exosquelette avec la pensée, c'est très intéressant sur le plan médiatique, mais on ne le montrera jamais parce que, en fait, l'intérêt serait assez limité.
C'est pas la finalité. Ouais. Justement, cette station debout, docteur Alexis Schneider, tout à l'heure, vous avez parlé justement les muscles, les articulations, mais il y a toute une autre série de bienfaits pour le corps. Je pense par exemple au niveau digestif, ce record qui se verticalise et qui réactive toutes les compétences et les capacités liées justement à cette station debout qui est la station naturelle, malgré tout, il faut le dire, de l'être humain.
Oui, nous sommes des bipèdes. Notre corps physiologiquement est construit pour être debout. Le fait de passer du temps assis ou allongé a des conséquences sur les os, sur le système digestif, sur le cœur, sur les poumons. Il y a beaucoup de conséquences médicales qui peuvent entraîner du surhandicap. Et c'est vrai, quand on est dans une stratégie presque de prévention de ces complications-là, on peut se dire que l'exosquelette est quelque chose de positif. Je mettrai un petit peu, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais tout le côté bénéfique sur le plan psychologique, parce que c'est vrai que l'impact psychologique d'être vertical, il est extrêmement important. Après, le bémol que je mettrais dans tout ça, c'est on est sur des stratégies de fonctionnalité au bout d'un moment. C'est-à-dire, autant la période de rééducation, c'est un outil, c'est un levier, autant quand on est sur une période de réadaptation, on va essayer de compenser quelque chose qui ne fonctionne pas bien, on est sur de la fonction. Et c'est vrai que la fonction, c'est le patient qui nous dicte le résultat. Et j'ai beaucoup de patients qui ont une paraparésie, c'est-à-dire des possibilités de marche, mais qui sont soit inesthétiques, soit peu fonctionnel et qui préfère de beaucoup être en fauteuil roulant et un jeune paraplégique qui fait circuler son fauteuil roulant, vous ne le suivez pas à pied, hein, il va beaucoup plus vite que vous, plutôt que d'être harnaché dans des orteils par exemple mécaniques qui le contraignent plus qu'il l'aide. Donc il faut vraiment avoir à chaque moment en tête le plus, le moins de cet outil.
Les avantages personnels, mobilité, confort, c'est essentiel, François Chevet.
Oui, il me revenait à l'esprit lorsque le docteur s'exprimait, le témoignage de Michael Jeremias, qui est un peu notre porte-parole des Jeux Paralympiques 2024, que j'ai eu la chance de rééduquer, même si lui, il n'a pas eu beaucoup de chance de m'avoir. Michael, qui était touché assez bas, a effectivement réessayé une marche appareillée. Et nous, on savait très bien, certainement, qu'il ne la garderait pas. Mais comme le médecin nous disait, il faut qu'il passe par là, par cette étape de position debout, par cette marche, pour finalement faire le deuil de cette marche qu'il ne gardera pas. Et Michael vous dira très bien que pour sortir du RER et venir ici, il est beaucoup plus à l'aise en fauteuil. Malgré tout, combien de fois on voit surgir des orthèses de marche qui ne sont pas mises, des prescriptions d'appareils de verticalisation qui ne sont pas utilisées. Effectivement, comme le disait le docteur à l'instant, ça disparaît. Peut-être que par le biais des exosquelettes, si cette facilité d'accès et cette utilisation est possible, on peut avoir dans le cadre de la réadaptation de nouvelles possibilités qui s'ouvrent. On parlait, pourquoi pas, de marche dans des endroits où même les fauteuils ne vont pas. C'est aussi des pistes qui s'ouvre. Donc gardons à l'esprit que c'est un outil avec des champs d'action pour l'instant qui ne peuvent pas être contestés. Et ça, je crois que c'est une avancée qu'on ne peut pas en tous les cas nier.
Un outil et des projets, Jean-Louis Constanza, on a parlé depuis le début de cette émission, principalement d'installations pour les adultes. Ce qui se prépare, c'est d'en préparer aussi justement des plus légères, des plus souples, des différentes, peut-être pour des applications pédiatriques.
Oui, en fait, de très loin, un exosquelette pour des enfants, c'est le même qu'un exosquelette pour des adultes, sauf que un enfant n'a pas du tout la même physiologie et les mêmes besoins fonctionnels qu'un adulte. Et donc, on ne peut pas se contenter de diviser par deux la taille de l'exosquelette, il faut le reconcevoir. Donc chez Wondercraft, on a commencé par définir un exosquelette pour les adultes, qui sert aujourd'hui dans des centres de soins. Et on va se dépêcher de trouver une petite équipe dans l'entreprise pour développer. Il faut vraiment redévelopper un exo pour les enfants. Alors, il change de taille aussi, donc il faut gérer ça, mais on y arrivera assez facilement. Et pour, dans un premier temps, pour aider les enfants qui n'ont pas tout à fait les mêmes pathologies que les adultes à récupérer une partie de la marche ou avoir des bénéfices médicaux dans les centres de soins. Et puis, dans un deuxième temps, qu'ils puissent aussi, puisque c'était un peu l'origine du projet de Wondercraft d'ailleurs, aller à l'école, puis aller à la fac et avoir une vie avec tous les bénéfices qu'on vient d'évoquer, d'une part sur la fonction, c'est-à-dire marcher, aller dans des endroits, aller aux toilettes, pouvoir faire ce que j'appelle souvent la boulangerie, c'est-à-dire quand vous êtes en fauteuil, vous pouvez franchir un trottoir. Ça s'appelle faire un wheeling, mais vous pouvez pas le faire 10 fois dans la journée parce que c'est fatigant et puis un tout petit peu risqué. Vous pouvez ouvrir une porte, c'est assez compliqué, vous prenez la porte, vous faites marche arrière, vous coincez la porte, vous faites marche avant. Mais si la porte est sur une marche, comme dans ma boulangerie, ben vous pouvez pas rentrer. Donc vous demandez une fois à une dame de vous ouvrir et puis la deuxième fois vous n'y allez plus. Donc un des avantages de l'exo, quand on sera arrivé à lui donner ses fonctions, mais ça devrait venir assez vite, c'est de faire tout un tas de choses qui sont essentielles dans un parcours de vie tous les jours et qu'on ne peut plus faire. Donc on fait le tour, on les fait pas. Et beaucoup de fauteuils, beaucoup de gens en fauteuil restent chez eux en fait.
Alors, on a parlé des projets, de ce qui pourrait changer, des limites aussi, mais il y a un obstacle majeur sur lequel je voudrais qu'on revienne parce que c'est un sujet quotidien dans notre émission, c'est l'accès aux soins et comme barrage évident à cet accès aux soins au-delà bien sûr de toute la dimension de la technologie, c'est bien sûr le coût financier. Cette super technologie, elle a un coût, ça limite forcément l'accès au plus grand nombre, surtout quand on est en pleine période d'innovation, en particulier aux plus démunis. Beaucoup de gens nous écoutent en ce moment même quand nous sommes en train de parler en Afrique. Jean-Louis Constanza, c'est pour l'instant une technologie pour les pays industrialisés, on l'a compris, on va dire pour les pays riches, et même au sein de ces pays, c'est une, on va dire, une micro-niche dans la rééducation.
Oui, or, qui dit micro-niche dit coût élevé, puisque les coûts dépendent essentiellement du nombre de machines que vous produisez. Donc, aujourd'hui, un exo dans les centres de soins ne coûte pas un prix exorbitant. Je vous donnais, hein, l'ordre de grandeur, c'est autour de 150 000 à 200 000 euros. Donc, c'est beaucoup d'argent. Mais par rapport à une installation d'IRM, où, c'est quand même assez peu. J'espère qu'on va démontrer que les bénéfices médicaux sont là et justifient le prix. Maintenant, en France et dans pas mal de pays d'ailleurs, les centres de soins dits SSR, c'est-à-dire où on fait de la médecine physique et de la réadaptation ou de la neurologie pour récupérer la marche pour les personnes qui ont un AVC par exemple, ont des budgets qui sont assez limités. Donc il faut arriver à trouver des schémas où un grand nombre de centres de soins peuvent l'acquérir, ce qui permet de faire un prix plus bas. Après, quand on passera à vendre l'exo à des gens pour qu'ils s'en servent dans leur vie quotidienne, il faut encore franchir une étape, parce qu'évidemment, à 150 000 euros, on n'aura pas d'utilisateurs, pas de clients, donc on ne pourra pas en vendre beaucoup, donc on ne pourra pas faire baisser les coûts. Heureusement, chez Wondercraft, on a des actionnaires qui ont bien compris ça, qui sont là pour le long terme, et on vise des prix d'entrée qui sont très inférieurs et qui seraient de l'ordre de grandeur d'un fauteuil roulant électrique un petit peu haut de gamme. Maintenant, il faut savoir qu'un fauteuil roulant électrique haut de gamme, dans la plupart des pays, n'est pas remboursé à 100%, loin de là. On peut tabler sur les systèmes de base sur un remboursement de l'ordre de 15 à 25%. Et quand on a la chance d'avoir une bonne mutuelle et qu'elle peut fonctionner dans ce cas-là, arriver à un remboursement plus significatif. Donc, le défi pour une industrie, pour un industriel comme Wondercraft, c'est de toute façon de fabriquer un objet et d'utiliser des technologies qui permettent vraiment de diminuer les coûts au maximum. C'est indispensable, pas seulement sur le plan éthique, c'est évident, hein, il faut que le maximum de gens puissent l'avoir, mais aussi sur le plan business, puisque nous sommes une entreprise, si on veut fabriquer des exos pour les gens, il faut qu'on survive en tant qu'entreprise, et sur le plan business, il faut en faire beaucoup, et donc il faut qu'il soit pas cher. On n'est pas trop inquiet, parce qu'en fait, finalement, un exosquelette, c'est du métal, du carbone et 12 moteurs, et c'est pas beaucoup plus compliqué qu'une moto à fabriquer. Donc si on arrive à des volumes, et il y a suffisamment de gens pour arriver à ces volumes conséquents, on devrait arriver à des prix qui sont accessibles pour, peut-être pas tout le monde tout de suite, mais une grande partie des gens.
Ces enjeux de l'accès ou de l'inégalité d'accès, docteur Alexis Schnitzer, c'est aussi quelque chose qui vous préoccupe ?
Oui, évidemment. Alors, ça nous préoccupe au sens très très large, hein. C'est-à-dire que la rééducation, la réadaptation, ça reste une médecine des pays riches. En Afrique, régulièrement on échange, et moi j'ai des contacts toutes les semaines avec des gens qui sont dans des pays africains, qui ont une grave maladie, un accident, et qui n'ont pas sur place ne serait-ce que la structure qui va leur permettre de bénéficier d'une rééducation ou de pouvoir avoir une orthophoniste une fois dans leur vie de patient. Donc, non, l'accès aux soins de cette médecine du subaigu reste un vrai problème, alors que l'enjeu est tout aussi important que la médecine aiguë, parce que l'efficacité est tout aussi importante, et c'est quelque chose qui nous attriste au quotidien. Après, quand on se projette sur les pays développés, donc comme la France ou les pays européens, les États-Unis, c'est vrai qu'en France, on a une stratégie la santé coûte cher. Voilà, quand vous avez une paraplégie, une tétraplégie, il y a des dizaines de milliers d'euros qui sont engagés dans les soins de base. Et ça, personne n'irait imaginer que c'est quelque chose à remettre en question. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir de façon assez globale ces soins, en se disant il y a des sous qui sont dédiés à la phase aiguë, subaiguë, qui sont extrêmement importants. Des sous pour la phase chronique qui le sont absolument pas. C'est 90% du budget d'une personne handicapée dépensé dans la première année. En termes de soins, c'est quand même dommage. On pourrait se dire peut-être mieux répartir les soins, ce serait donner l'accès à des outils de réadaptation.
François Chevet, vous aussi, un même point de vue sur beaucoup en quelque sorte, même si vous le disiez tout à l'heure, peut-être pas suffisamment encore, sur la rééducation, pas suffisamment sur la réadaptation ?
Oui, je repensais tout simplement à tous les gens qui nous écoutent en Afrique. C'est sûr que lorsqu'on est blessé au niveau de la moelle épinière, il y a des choses qui paraissent évidentes, les soins de peau, éviter les escarres, s'occuper des problèmes d'infection urinaire. Tout ça, c'est d'abord le lot en priorité. Mais je crois que par cette perspective qu'il y a au travers des exosquelettes, on a tout simplement la même chose qu'on a eue peut-être à certains moments sur certaines voitures, dans une évolution. Regardez les voitures d'il y a 50 ans, celles qu'on a maintenant. Je crois que ce fer de lance que peut représenter l'exosquelette est quand même très porteur pour l'avenir. Alors bien sûr qu'il y aura un problème de coût, bien sûr qu'il y aura un problème de répartition d'argent, bien sûr qu'il y aura aussi des problèmes d'assureur, et qu'on arrivera peut-être à trouver un moyen pour avoir ce financement-là. Quoi qu'il arrive, il faudra repréciser une chose, c'est que ça va aussi créer des potentiels chimères. Donc, comme on l'a dit, toujours bien cadrer la présentation de ces exosquelettes. Hein. On ne veut pas retrouver une nouvelle clinique en Uruguay qui, d'un seul coup, vous opérez, qui fait que vous marchez comme avant. Donc, il faut toujours être proche du patient, lui expliquer que c'est un outil de rééducation, que peut-être ce sera un outil d'aide de réadaptation après, qu'il faut d'abord apprendre à maîtriser, et ensuite réfléchir avec lui et avec les structures nationales qu'elle peut être le coût possible pour finalement devenir l'acquéreur.
Docteur Alexis Schnitzer, est-ce que ces machines, ces exosquelettes ouvrent la voie à un nouveau type de médecine, ou est-ce que ce ne sont que des super outils?
Ce sont des super outils.
C'est déjà pas mal, hein, parce qu'avec ces super outils, on fait aussi des choses magnifiques pour sauver ou pour aider les gens.
Je pense que ce qui est important, c'est de toujours, toujours, toujours garder en tête que le handicap d'origine neurologique, quel qu'il soit, est multifactoriel. Et ce qui fait tout la complexité de nos prises en charge, c'est une fois de plus, que quelqu'un peut avoir du mal à marcher, soit parce qu'il a une jambe qui est paralysée, soit parce qu'il est incapable de se concentrer, donc le moindre trottoir va le faire tomber. Et donc dans un cas, ce sera une stratégie de rééducation qui est plus motrice, dans l'autre cas, ce sera une stratégie de rééducation qui est plus cognitive. Et nous, on est preneurs de tous ces outils-là et de tous ces leviers. Il n'y aura pas, je pense, une médecine de la biotechnologie ou une médecine de l'ingénierie. En revanche, ce qui est indispensable, et moi je me bats pour ça, c'est que les médecins et les soignants soient impliqués très rapidement dans toutes les conceptions possibles, parce que le nombre de projets que j'ai vu passer d'exosquelettes qui ont fini à la poubelle, voilà, depuis 20 ans, il y en a eu quelques-uns. Parce qu'on avait une réflexion de pantin désarticulé, c'est-à-dire que... Alors c'est pas pour être réducteur par rapport aux ingénieurs, enfin c'est pas me fâcher, mais c'est vrai, quand on réfléchit à un paraplégique, on imagine que les jambes, elles sont toutes molles et qu'on va mettre des trucs dessus et ça va faire marcher. Et non, c'est pas le cas, c'est pas si simple que ça. Et donc ça nécessite beaucoup de développement. Je pense qu'on en a le témoignage aujourd'hui. On y arrive, voilà, et ça c'est important. Et donc je pense qu'il y aura des médecins qui seront de plus en plus, des médecins et des soignants qui seront de plus en plus investis dans ce domaine-là.
Ça veut dire que ça doit être aussi complètement intégré au processus de formation des soignants.
Oui. Et
c'est le cas.
De spécialisation des soignants. De formation du quotidien.
Oui.
Non, les étudiants en médecine, on va pas leur parler d'Iron Man, hein, on leur apprend à taper les réflexes. Mais quand ils se spécialisent.
Ouais, c'est déjà bien.
On est plutôt bien en France en termes de formation médicale. On a une chance incroyable en termes d'accès à la formation et de la qualité de la formation qui est proposée, avec une évolution qui est permanente. Et on a su, quand les médecins commencent à se spécialiser, à les encadrer dans leur spécialisation pour qu'ils aient accès à ce qui se fait plutôt de mieux dans le monde. Et donc... cet outil-là, comme les autres, je pense, seront intégrés dans la spécialisation de chaque docteur quand c'est un des leviers dont il pourra avoir besoin pour qu'il puisse l'utiliser au mieux.
Alors, on parle de projets qui sont développés aujourd'hui. Malgré tout, il y a encore cette image futuriste. Et à chaque fois, quand on s'intéresse aux technologies d'avenir, les questions éthiques et même au-delà des questions un peu fantasmées arrivent, notamment celle-ci qui est caricaturale, on l'a compris une fois qu'on a écouté toute l'émission. Est-ce qu'on n'a pas peur, François Chevet, d'être remplacé par la machine?
Non. Puisque la machine, elle est à notre service. Et elle remplit une seule fonction, on l'a bien redit, il y a un tas de fonctions, notamment du paraplégique, qui ne pourront pas être remplacées par un exosquelette, on le sait. Mais même si c'est réduit, ça reste néanmoins un champ d'espace qu'il faut explorer.
Jean-Louis Constanza, il y a les ingénieurs, tous ceux qui pensent à ces machines, il y a les commerciaux, il y a l'aspect financier. Comment intervient l'éthique? Chacun a son éthique individuelle, personnelle, mais est-ce qu'il y a un comité, un centre de réflexion qui travaille au sein de votre entreprise spécifiquement sur cette question?
Alors oui, on a dès le début de l'histoire de Van der Kraft, demandé à trois médecins très référents en France dans le domaine de la rééducation des membres inférieurs de former un comité scientifique. Très vite, on a commencé à travailler avec des équipes médicales dans des centres de soins assez grands qui font de la recherche, qui ont eux-mêmes des comités d'éthique pour conduire des études cliniques et donc qui nous cadrent dans notre approche des patients, des soins et puis plus tard du retour à l'autonomie. Et puis on a une équipe qui, tous les ingénieurs chez nous, même s'ils ont fait 10 ou 15 ans de maths au plus haut niveau mondial, participent aux essais cliniques. Donc ils viennent littéralement toucher les patients et travailler avec eux. On a des pilotes d'essais, comme je les appelle, en études cliniques, qui sont absolument extraordinaires parce qu'ils prennent un risque, comme vous l'avez évoqué. C'est qu'ils vont faire une étude où pendant 2, 3, 4 semaines, ils vont remarcher 2 ou 3 fois par jour. Et puis après, ils vont attendre quelques années pour qu'ils vont repartir en fauteuil roulant en fait du centre de soins. Donc ils prennent ce risque avec nous, ils attendront et on essaye de pas éveiller leurs espoirs trop tôt.
Ils deviennent pas accros à l'exosquelette ?
Un petit peu, mais sont des gens courageux et très lucides et tout ce qu'ils veulent c'est reparticiper à une étude comme un astronaute veut remonter dans l'espace en fait. Et on reste en contact étroit avec eux. Ça aussi c'est une source pour nous d'éthique automatique, je dirais. Et puis bon, on a un quatrième levier, c'est que deux des fondateurs ont dans leur famille très proche des personnes en fauteuil. Donc on a une petite corde de rappel sur comment on doit conduire le développement de cette entreprise vis-à-vis des gens qu'on va essayer de servir.
Et sur les retours, sur les échanges, docteur Alexis Schnitzer, on vous apporte ces exosquelettes, vous travaillez avec. Est-ce qu'il en ressort que vous aussi être demandeur, vous avez une série de demandes que vous demandez en application, en retour, dans une interaction d'expérience?
Oui, c'est l'échange quotidien. Et c'est comme ça qu'on avance. Hein. Alors, j'ai envie de dire, on avance en marchant. Mais c'est important de remettre toujours le patient au centre de la problématique. Et c'est le patient qui va dire ça me va, ça me va pas. Je vois l'histoire de, des fois, on est plus efficace en fauteuil qu'en étant debout. Et c'est en fonction de ses attentes qu'on va pouvoir voir quels sont les progrès sur le plan de l'ingénierie qu'il faut mettre le maximum d'atouts pour réussir à répondre à une attente, même si initialement, quand on y réfléchit de façon pragmatique sur un bout de papier, on n'est pas forcément la première qui a été sortie. Et donc remettre le patient au centre de ces développements, c'est ce qui fait qu'à terme, ce type de développement sera efficace. Et si je peux dire un mot sur l'éthique, c'est vrai que il me revient toujours en tête l'histoire de Pistorius et de ses lames et du fait que s'il arrivait à courir le 100 mètres, c'était grâce à des lames qui avaient été construites par la NASA. Et moi qui vis au quotidien avec des personnes handicapées qui sont en grande difficulté, quand on commence à exposer le fait qu'on va créer un outil qui va rendre mieux que l'homme physiologique, je vous avoue que ça m'attriste à un point, mais qui est incroyable.
Mais c'est la formule aussi d'homme augmenté, hein. C'est inclus dans cette formule.
Alors, le jour où on aura des handicapés augmentés, on n'y est pas déjà qu'on se donne les moyens le plus possible de leur donner les possibilités physiologiques d'un homme normal. C'est un combat qui est merveilleux, le fait qu'il dépasse un jour les possibilités physiologiques d'un homme. Enfin, on n'y est pas tout de suite. Donc laissons les ingénieurs, les médecins, les patients avancer le plus loin et le plus haut possible. Et pour finir par Pistorius, il aurait couru beaucoup, beaucoup plus vite avec son vrai pied.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Merci pour cet échange sur ces technologies de demain, technologies d'aujourd'hui, on l'a bien compris pour certains. Merci à vous Jean-Louis Constanza. Je rappelle que vous êtes cofondateur, directeur du développement de la société Wondercraft qui travaille sur ces exosquelettes pour personnes paraplégiques. Docteur Alexis Schnitzer, médecin physique et réadaptation à l'hôpital Raymond Poincaré. À vous François Chevet, kinésithérapeute, auteur de Prendre soin aux éditions Don Quichotte.
Et Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les prévoyants maîtres de chantier, profitez d'une assurance tout risque chantier. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.